20 janvier 1941, soirée inaugurale du troisième mandat de Franklin Roosevelt, Charlie Chaplin.
Ladies and gentlemen, I'm not going to take up your time. I want to give you the last speech.
Je veux prononcer ici le dernier discours du grand dictateur. C'est l'histoire d'un petit barbier juif, confondu avec le grand dictateur. Il s'adresse aux soldats, qui le prennent pour l'empereur du monde. Voici ce qu'il leur dit. Je suis désolé, je ne veux pas être empereur, ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place. La terre est riche, elle peut nourrir tout le monde. La vie peut être libre et belle, mais nous en avons perdu le sens. L'avidité a empoisonné l'âme des hommes, a barricadé le monde avec la haine.
The Great Crossing, Franklin Delano Roosevelt, the Hour.
Grande traversée, Franklin Roosevelt, l'allié.
Il est intéressant de noter que Roosevelt et Hitler sont arrivés au pouvoir à peu près au même moment. Hitler en janvier 1933 et Roosevelt en mars 1933. D'ailleurs, ils sont morts à quelques semaines d'intervalle. Leurs 10 années au pouvoir ont donc presque coïncidé.
David
Woolner.
Il est intéressant de noter aussi que Roosevelt a déclaré à l'ambassadeur de France à Washington en avril 1933 qu'Adolf Hitler était un fou. Il n'avait aucun doute sur la menace que représentait Hitler.
En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur du progrès. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront.
Will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish.
Le pouvoir volé au peuple retournera au peuple. Les hommes peuvent mourir. La liberté ne périra jamais.
Au cours des années 20, des liens se nouent entre la sphère politique et Hollywood, mais c'est Franklin Roosevelt qui cultivera et approfondira cette relation entre ses sympathisants et Hollywood.
Catherine Bronwell.
Comme un moyen de communication avec le public, avec les spectateurs de cinéma. Il comprend que c'est l'occasion pour lui de vendre son programme du New Deal aux immigrés, aux citadins amateurs de cinéma, et de contourner la presse écrite qui était très critique à l'égard du New Deal. Le cinéma a joué un rôle clé dans la promotion du New Deal. Il a poursuivi cette conversation afin que le peuple adhère à différentes mesures. Il a travaillé avec de nombreux directeurs de studios qui ont mis à disposition leurs ressources, leurs studios de production et leurs stars pour créer ces courts-métrages destinés à promouvoir certains aspects du New Deal. Il s'agissait de films d'actualité très courts qui était projeté au début de la séance, avant le film. Mais cela montre avec quelle habileté il a su relier son programme politique à la forme de divertissement la plus populaire de l'époque.
Il y a un dessinateur au New York qui s'appelait Peter Arnold qui a fait un célèbre dessin de 4 dames dans des manteaux de vison dehors dans la rue et qui parle à une autre dame,
Ivan Nabokov,
qui à sa fenêtre qu'elle est devant eux et dit: nous allons au cinéma d'actualité pour siffler Roosevelt. Viens.
Just get up off the ground. That's all I ask. Get up there with that lady.
that's up on top of this Capitol dome, that lady that stands for liberty. Take a look at this country through her eyes if you really want to see something. And you won't just see scenery. You'll see the whole parade of what man's carved out for himself after centuries of fighting. And fighting for something better than just jungle law. Fighting so he can stand on his own 2 feet, free and decent, like he was created. No matter what his race, color, or creed. That's what you'd see. There's no place out there for graft, or greed, or lies, or compromise with human liberties.
Se battre pour autre chose que la loi de la jungle. Se battre pour pouvoir tenir debout sur ses deux jambes, libre et honnête, tel que nous avons été créés. Le sénateur Smith va bientôt s'effondrer dans le film de Frank Capra. 20 heures qu'il s'époumonne à la tribune du Sénat, qu'il raconte sous les traits de James Stewart la corruption de la vie politique américaine par l'argent, comme en écho au message du président Roosevelt à la radio.
And it's not too late. Because this country is bigger than the Taylors, or you, or me, or anything else. Great principles don't get lost once they come to light. They're right here.
One of the really interesting things that he cultivates over the course of his presidency is this relationship with Hollywood for his annual birthday ball.
C'est un des aspects très intéressants de sa présidence.
Hollywood would come together.
La relation qu'il a cultivée avec Hollywood lors de ses balles d'anniversaire. Chaque année, au mois de janvier, des stars se réunissaient pour fêter l'anniversaire de Franklin Roosevelt lors d'un bal.
It was an opportunity for each year. To celebrate Franklin Roosevelt's birthday, to generate attention.
C'était l'occasion d'attirer l'attention sur lui en tant que président, mais aussi de lever des fonds pour la Warm Springs Foundation et la recherche sur la poliomyélite.
17 mai 1933, dans le journal d'Henry Morgenthau. Dîner à la Maison Blanche. Madame Roosevelt a demandé à toute la table : avez-vous écouté le discours d'Hitler à la radio ? J'ai dit que je l'avais écouté. Avez-vous compris un seul mot de ce qu'il racontait, m'a-t-elle demandé ? Non, lui ai-je répondu. Ça me rassure, m'a-t-elle dit. Ni Franklin ni moi n'avons compris.
No one knows whether there was going to be a war and so forth, but he was always very aware of the danger that Hitler and the Nazis posed, and that awareness only accelerated.
Personne ne peut savoir qu'il va y avoir une guerre. Mais Roosevelt a toujours été très conscient du danger que représentait Hitler et les nazis.
And it's a curious thing.
Et cette conscience n'a fait que s'accentuer tout au long des années 1930.
They became very bitter.
Mais les Américains, et c'est une chose que j'ai encore du mal à comprendre aujourd'hui, gardaient une amertume quant à l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ils avaient le sentiment que la guerre n'avait fait qu'enrichir un grand nombre de banquiers et de marchands d'armes. Le Sénat a donc créé une commission d'enquête au milieu des années 1930 pour en savoir plus sur ce qui s'était passé pendant la guerre. Cela a nourri un sentiment très anti-européen, très anti-britannique aux États-Unis, et favorisé l'émergence d'un mouvement très fort qu'on appelle le mouvement isolationniste. L'isolationnisme permet aux États-Unis de se tenir à l'écart des problèmes du monde.
Rebecca Herbelding.
Dans les années 1930, les États-Unis souffrent beaucoup. Ils souffrent de la Grande Dépression. Il y a une montée de l'antisémitisme et du racisme tout au long des années 30. Et le pays est résolument isolationniste. Il ne veut pas prendre part à la guerre.
Comme vous le savez, au milieu des années 1930, le Congrès a adopté une série de lois sur la neutralité, qui à bien des égards sont une réaction à l'effondrement de l'ordre international. La première rupture de l'ordre international dans les années 1930 est évidemment l'invasion japonaise de la Mandchourie en 1931. Elle est suivie par l'invasion italienne de l'Abyssinie en 1935, la guerre civile espagnole en 1936, et l'invasion japonaise de la Chine en 1937. Tout s'enchaîne. Et à mesure que la situation internationale se dégrade, le Congrès réagit en adoptant des lois sur la neutralité. En 1935, cette loi stipulait non seulement que les États-Unis devaient rester neutres, mais aussi qu'ils ne pouvaient pas vendre d'armes. Elle instaurait un embargo sur les armes à destination des deux camps impliqués dans le conflit. et l'interdiction de vendre des produits de base aux uns ou aux autres. C'était une loi très restrictive. Cela voulait dire que Franklin Roosevelt n'avait pratiquement aucune marge de manœuvre pour venir en aide aux victimes d'une agression, comme pendant la guerre civile espagnole. Ce qui l'a beaucoup inquiété parce qu'il voyait bien que c'était le fascisme qui s'en prenait à la démocratie. Mais il était pour ainsi dire impuissant.
This land is your land, this land is my land, from the redwood forest to the New York Island, from the snow-capped mountain to the Gulf Stream waters, this land is made for you and me. As I go walking my ribbon of highway, I see all around me my blue, blue skyway. Everywhere around me the wind keeps a-whistling, this land is made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from the redwood forest to the New York Island, the snow-capped mountain to the Gulf Stream waters, this land is made for you and me. I'm a-chasing my shadow out across this road map, to my wheat fields waving, to my cornfield dancing. As I go walking, this wind keeps talking, this land is made for you and me.
16 mars 1935, dans le journal d'Henry Morgan Sow. Ce soir, après le souper, je suis restée avec le président. Nous étions seuls. Il m'a dit qu'il voulait me parler de l'Europe et de sa façon de voir les choses. C'était encore balbutiant dans sa tête, puisque la veille, Hitler avait annoncé qu'il voulait procéder au réarmement de ses troupes. Le président m'a dit que son idée serait que la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, la Pologne et possiblement la Russie se parlent et se mettent d'accord sur un programme de désarmement de 10 ans qui exclut toute arme qu'un homme ne peut porter sur son dos ou à bout de bras. Que seules des armes lourdes soient autorisées le long des frontières et des fortifications, en plus des fils barbelés. Il disait que si ces pays signaient un tel pacte, ils pourraient ensuite se tourner vers l'Allemagne et lui proposer de le signer. Si elle refusait, ces pays formeraient alors un blocus autour de l'Allemagne, interdisant l'entrée et la sortie de tout produit. Il a dit qu'il enverrait un de nos navires amiral pour contrôler que personne ne contourne ce blocus. Le président m'a demandé ce que j'en pensais. Il m'a dit que si ça ne fonctionnait pas, nous aurons une guerre mondiale.
Finally, in 1937, he convinced the Congress.
Finalement, en 1937, il a réussi à convaincre le Congrès de lui accorder une petite latitude. Un amendement est introduit dans la loi, la clause cash and carry, qui autorisait les États-Unis à vendre des marchandises, pas des armes, à un pays en guerre, à condition qu'il paye au comptant et vienne chercher lui-même ses achats. Donc l'évolution par rapport à la Première Guerre mondiale était que désormais, si un pays belligérant voulait acheter un produit aux États-Unis, il pouvait venir avec son propre navire, le payer et l'emporter. Cela permettait d'éviter que se répète le scénario de la Première Guerre mondiale, avec la perte de nombreux navires marchands américains et un endettement croissant des États-Unis pour fournir des fonds aux puissances européennes en guerre. Cette clause n'est restée en vigueur que 15 mois. Elle prend fin au printemps 1939, et au même moment, tout le monde sait que la guerre est extrêmement probable. Croyez-le ou non, Roosevelt n'a pas réussi à convaincre le Congrès américain de prolonger la clause cash and carry. Il a aussi demandé à ce que l'embargo sur les armes soit levé. Il a eu le dernier mot le 12 juillet 1939, soit seulement 6 semaines avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate. Le Sénat n'en a pas démordu. Certainement pas. Nous ne prolongerons pas la clause et nous ne lèverons pas l'embargo sur les armes. Au cours d'une discussion privée, Roosevelt a dit à Henry Morgenthau: « Les 4 sénateurs à la tête de la Commission des Affaires étrangères du Sénat ont déclaré qu'Hitler se réjouirait de sa décision demain. Je pense qu'on devrait fournir des fonds pour qu'une statue à l'effigie de ces quatre individus soit érigée à Berlin et qu'on leur fasse arborer des croix gammées. Il était furieux.
À son Excellence Adolf Hitler, chancelier du Reich allemand. Je pense que vous ne vous méprendrez pas sur l'esprit de franchise avec lequel je vous écris ce message. Ceux qui sont à la tête des grands gouvernements sont à l'heure actuelle littéralement responsables du destin de l'humanité pour les prochaines années. Ils ne peuvent pas ne pas entendre les prières de leur peuple d'être protégés du chaos et de la guerre. L'histoire les tiendra pour responsables de la vie et du bonheur de tous, jusqu'au moindre d'entre eux. J'espère que votre réponse permettra à l'humanité de retrouver sa sérénité et la sécurité pour les prochaines années. Le même message est adressé au chef du gouvernement italien, Franklin Delano Roosevelt.
15 avril 1939, dans le journal d'Henry Morgenthau. Et appelé le président à 12h30. J'apprends que vous avez envoyé ce message à Hitler et Mussolini dont vous m'aviez parlé lundi. Je vous félicite, j'en suis ravie. Croisons les doigts, il y a une chance sur cinq, mais il fallait le tenter, me répond le président. C'est assez excitant, terriblement excitant, me répond le président. S'il décline, vous saurez où nous en sommes. C'est tout l'enjeu, me dit le président. Mon intuition, note ensuite Henry Morgenthau, c'est qu'il va concentrer la flotte sur la côte atlantique. Il pourrait aller plus loin et l'envoyer vers l'Europe, mais je doute qu'il le fasse. Si nous pouvions préserver la paix, maintenir les Italiens et les Allemands dans leurs frontières actuelles, alors nous pourrions nous atteler à d'autres problèmes. Le plus urgent d'entre eux étant le sort des Juifs, en Europe et ailleurs.
De nombreux dirigeants politiques ne voulaient pas de réfugiés juifs dans leur propre pays. C'était également le cas aux États-Unis. Franklin Roosevelt voulait trouver une solution à la crise des réfugiés, mais il savait qu'une majorité écrasante d'Américains, lorsqu'ils étaient interrogés, disaient qu'ils ne voulaient pas augmenter les quotas d'immigration en vigueur dans leur pays. Les États-Unis limitaient l'immigration depuis 1924. Ces limites étaient très populaires. Roosevelt ne pensait sans doute pas qu'il pouvait faire pression en faveur d'une expansion de l'immigration. Mais il pensait que la crise était réelle. Il a donc commencé par organiser une conférence internationale à Évian, et il a déclaré que les États-Unis rempliraient leurs quotas, mais qu'ils n'essaieraient pas de les augmenter. Et c'est ce qui s'est passé. Les États-Unis ont effectivement rempli leurs quotas pendant les deux années suivantes. Je pense que de nombreux hommes politiques, y compris Roosevelt, se disaient que leur pays n'accepterait pas d'accueillir des réfugiés, mais qu'il fallait essayer de trouver un endroit où ils pourraient aller. C'est pour cette raison qu'ils se sont penchés sur des régions de l'Angola. En 1940, des auditions sont organisées au Congrès concernant l'envoi de réfugiés juifs en Alaska, qui est à l'époque un territoire américain. De nombreux projets différents sont envisagés, mais ils n'aboutissent jamais. Comme vous le savez, Roosevelt adorait les cartes et les plans. Il était donc très heureux de nommer des personnes chargées d'essayer de trouver des solutions, mais cela n'a pas débouché sur quoi que ce soit.
19 juin 1939, dans le journal d'Henry Morgenthau. Déjeuner avec le président. J'ai dit, ça fait un an et on n'avance pas, monsieur le président, sur cette question des réfugiés juifs. Qu'allons-nous faire ?
Morgenthau était très mal à l'aise par rapport à sa judéité. Il n'était pas particulièrement religieux. Il n'assistait pas aux offices. Il savait qu'avec la montée de l'antisémitisme en Europe et aux États-Unis, sa judéité pouvait être un handicap pour Roosevelt. Il ne voulait pas contribuer à ce que Roosevelt soit critiqué par les antisémites. Morgenthau était donc particulièrement sensible à toute attaque antisémite à l'encontre de Roosevelt et de son « Jew deal », entre guillemets.
C'est vrai, m'a dit le président. Tout le problème vient d'Angleterre. Le comité des réfugiés juifs là-bas n'avance pas. J'ai parlé au président du Paraguay l'autre jour au déjeuner. Il m'a dit qu'il pouvait en accueillir 5 000. Le président a ajouté « Je suis sûre que si je réunis 2 ou 3 personnes, nous pouvons ébaucher un plan. » Et je ne sais plus si c'est lui ou moi qui l'a formulé, mais il nous semble évident que si nous accueillons des réfugiés juifs d'Allemagne, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie vont chasser leur population juive. Et ce sera alors 4 à 5 millions de gens qu'il faudra prendre en charge. Je lui ai dit « Monsieur le Président, vous ne pensez pas que c'est ce qui va arriver de toute façon ?» Il a dit « Absolument, je n'arrête pas de le dire, mais je ne progresse pas. Je veux faire quelque chose et si nécessaire, on l'appellera le plan Roosevelt. Si vous me donnez une liste des 1 000 juifs les plus riches aux États-Unis, je vais leur dire combien ils vont devoir donner. Un homme comme Zemuré de United Fruit pourrait donner 5 millions de dollars et il y en a beaucoup d'autres comme lui. » J'ai dit « Monsieur le Président, avant de parler argent, ayons un plan. » Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais vous épauler à ce sujet. Ça ne me dérange pas, a-t-il répondu. Il est profondément habité par ce sujet. Le grand problème, c'est que personne ne le suit.
Eleanor Roosevelt is the humanitarian. Franklin Roosevelt is the politician.
And throughout his presidency, Eleanor Roosevelt est l'humanitaire. Franklin Roosevelt est le politicien. Tout au long de sa présidence, il donne la priorité à 3 choses. Sortir de la Grande Dépression, préparer la guerre pendant les 2 ans au cours desquels les États-Unis sont officiellement neutres, et enfin, gagner la guerre. Tout le reste est secondaire. En 1939, alors que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France accueillent des enfants dans le cadre du Kindertransport, les États-Unis présentent au Congrès un projet de loi visant à faire venir 20 000 enfants réfugiés allemands. Eleanor Roosevelt se prononce en faveur de ce projet de loi. De très nombreuses personnes, des figures connues, font de même. Franklin Roosevelt dit « C'est bien pour toi, Eleanor, de dire que tu le soutiens, mais je ne dirai rien. » Et il le dit sans détour. C'est écrit. S'il pense que c'est plus intelligent de ne rien dire, c'est parce que certains des opposants les plus véhéments se trouvent dans son propre parti politique, les démocrates. À ce moment-là, le Parti démocrate se divise entre les démocrates du Nord, qui comptent de nombreux immigrés et électeurs noirs, et les démocrates du Sud, qui soutiennent l'Amérique de Jim Crow, les suprémacistes blancs qui ne croient pas en l'immigration. Or, Roosevelt a besoin de leur vote pour le New Deal et pour sortir de la Grande Dépression. C'est à ces questions qu'il donne la priorité plutôt qu'à l'expansion de l'immigration.
Of course, Roosevelt has come in for criticism, as many leaders have, during the 1930s and 40s.
Roosevelt a été critiqué, comme de nombreux dirigeants dans les années 1930 et 1940, pour son incapacité à ouvrir les portes américaines à l'immigration massive depuis l'Europe, en particulier depuis l'Allemagne et l'Autriche, afin d'aider les Juifs à échapper aux persécutions nazies. Mais en réalité, les États-Unis ont accueilli plus de réfugiés juifs, allemands et autrichiens, que n'importe quel autre pays du monde entre 1936 et 1940. Ce n'est donc pas comme si les États-Unis n'avaient rien fait. Le problème, c'est que la loi de 1924, le National Origins Act, avait fixé des quotas par nationalité. Il s'agissait d'une politique très régressive. Elle était basée sur le recensement de 1890 des États-Unis. C'était donc une loi très anti-catholique, très anti-juive ou anti-russe. Roosevelt aurait enfreint cette loi s'il avait dépassé ses quotas. Il a soulevé la question de la révision de cette loi à de nombreuses reprises au cours de son mandat, en particulier après les élections de 1936. Mais ses différents collaborateurs et assistants, y compris des personnes comme Samuel Rosenman, qui était juif, lui ont toujours dit « si vous en parlez, ils fermeront encore plus les portes, mieux vaut ne rien dire ».
Eleanor a souvent insisté auprès de Franklin sur ce point. Et il est d'accord pour qu'elle s'implique dans les questions relatives aux réfugiés. D'ailleurs, il est possible qu'il n'ait pas eu le choix, parce qu'elle était très déterminée. Mais il essaie de garder ses distances. À un moment donné, je sais qu'Eleanor lui a demandé si elle pouvait parrainer des enfants réfugiés, si elle pouvait rédiger une déclaration sous serment pour faire venir des enfants réfugiés aux États-Unis. Il lui a répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient, mais qu'il ne pouvait pas venir vivre à Hyde Park. La première dame ne peut donc pas accueillir d'enfants réfugiés à la Maison Blanche ni à leur domicile. C'est trop visible. Mais si elle veut parrainer des réfugiés, elle peut le faire. Eleanor a fait don des recettes de sa chronique My Day à l'American Friends Service Committee, qui s'occupait des réfugiés dans le sud de la France et en Europe. C'était une organisation Quaker. Comme les Quakers américains étaient pacifistes, l'Allemagne nazie les a autorisés à rester plus longtemps en Europe que les autres organisations. Et Eleanor a beaucoup soutenu leur travail.
De août 1939, à Franklin Roosevelt, président des États-Unis. Au cours des quatre derniers mois, grâce aux travaux de Joliot en France et à ceux de Fermi et Szilard en Amérique, il sera possible de créer une réaction nucléaire en chaîne à partir d'une grande quantité d'uranium dans un futur très proche. Ce nouveau phénomène pourrait aussi entraîner la fabrication de bombes, voire de bombes extrêmement puissantes d'un nouveau type. Les États-Unis n'ont que de très pauvres minerais d'uranium. Il y en a de meilleurs au Canada, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, la source la plus importante étant au Congo belge. Au vu de la situation, il est préférable d'établir un contact permanent entre l'administration et les physiciens travaillant sur la réaction en chaîne aux États-Unis. Vous pourriez en charger quelqu'un en qui vous ayez confiance et de façon officieuse. Son rôle serait d'informer les ministères concernés de l'évolution des choses, de faire des recommandations pour s'assurer un stock d'uranium et d'accélérer les expériences qui désormais dépassent largement le cadre budgétaire de l'université. À ce que je sais, l'Allemagne a mis la main sur les mines d'uranium de Tchécoslovaquie. Une telle décision devrait être reliée au fait que le fils du sous-secrétaire d'État allemand von Weizsäcker est attaché au Kaiser Wilhelm Institut à Berlin, où certains travaux américains sur l'uranium sont maintenant en cours. Très sincèrement vôtre, Albert Einstein.
That gives us some light.
My countrymen and my friends.
Les amis, ce soir, mon seul devoir est de parler à toute l'Amérique.
To the whole of America. Until 4:30 o'clock this morning, I had hoped against hope.
Jusqu'à 4:30 ce matin, j'ai espéré un miracle qui évite une guerre dévastatrice en Europe et stoppe l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes. Depuis 4 ans, une succession de crises et de guerres ont secoué le monde et menacé de dégénérer en un gigantesque conflit qui, malheureusement, aujourd'hui est là.
Quand la guerre a éclaté en 1939, Roosevelt a bien sûr voulu faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider les Britanniques et les Français dans leur lutte contre les nazis. En vertu des dispositions de la loi sur la neutralité, les Français et les Britanniques pouvaient acheter des armes aux États-Unis, mais ils devaient les payer au comptant et les transporter dans leurs propres navires. Et comme vous le savez, la guerre ne s'est pas bien passée la première année. Après la défaite de la Pologne et l'invasion de la Norvège, Hitler a lancé son attaque contre la France et les Pays-Bas.
Le 29 janvier 1940, dans le journal d'Henry Morgenthau. Au déjeuner avec le président, nous avons parlé de cette affaire du troisième mandat. Le président a dit: je sais exactement ce que je veux faire, et puis il a changé de sujet. J'ai fini par lui demander ce qu'il voulait dire exactement lorsqu'il dit qu'il sait ce qu'il veut faire. Il a dit: c'est aller si loin, Henry, que c'est un jeu avec moi. Tous me pressent de questions et je m'amuse à les éviter. Il a ajouté: je n'ai pas envie de me représenter. à moins qu'entre maintenant et la Convention démocrate, les choses ne se soient vraiment aggravées en Europe. Je crois que ça résumait bien son état d'esprit actuel. J'ai dit, après tout, Monsieur le Président, vous pouvez vous décider au dernier moment, vous décider en un fragment de seconde. Absolument, a-t-il dit.
2 juillet 1940. Cher Monsieur Roosevelt, je vis à Butte, qui est la plus grande ville du Montana et la plus grande mine de cuivre du monde. Ma famille et moi vivons dans un appartement, et notre propriétaire, et tous les gens des appartements voisins, et enfants de tous les gens à qui j'ai parlé, veulent que vous soyez encore le président dans les 4 prochaines années. La raison principale est qu'on ne change pas de cheval au milieu du gué, et que si un homme peut faire en sorte que notre pays reste en dehors de la guerre, c'est en vous que nous avons confiance. Burton Davis.
29 avril 1940 dans le journal d'Henry Morgenthau. Le président m'a dit qu'il était rentré plus tôt parce qu'il est très angoissé par la situation en Europe. Il a dit « Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi qui reste strictement confidentiel. Je veux que vous vous occupiez de l'Italie. » J'ai dit « Je ne comprends pas. Comment pourrais-je m'occuper de l'Italie ?»« De la même manière que vous allez vous occuper de l'Allemagne, a-t-il répondu. » J'ai dit « Je ne comprends toujours pas. » Il a dit « Ne laissez en aucun cas leurs avoirs et leur argent sortir de ce pays. » J'ai dit « Très bien, je comprends maintenant. C'est la mission la plus dingue qui m'ait jamais été confiée. » Il a dit « Vous vous en occupez et vous n'en parlez à personne. »
Dans les années 30, l'antisémitisme est profondément ancré dans la société américaine.
Catherine Bronwell.
Or, l'industrie cinématographique est en grande partie dirigée par des immigrés juifs. De nombreux puissants groupes chrétiens organisent le boycott de films dont ils considèrent qu'ils corrompent la jeunesse américaine. Donc, il est tout à fait significatif que certains de ces producteurs de cinéma d'origine juive tentent de nouer des relations avec des leaders politiques américains, comme Franklin Roosevelt. Ils pensent pouvoir gagner en prestige social en s'associant au président. Alors que la menace fasciste plane sur l'Europe et gagne de plus en plus de terrain, ils se retrouvent en plein cœur d'une crise internationale. Et ils essaient vraiment de plaider la cause de l'interventionnisme dans certains de leurs films et dans certaines de leurs activités en dehors du grand écran. Ces films n'ont pas été de grands succès populaires. Il y a eu Le Dictateur avec Charlie Chaplin et Les Aveux d'un espion nazi en 1939, produit par Warner Brothers, qui évoque l'espionnage nazi.
Nazi spy. I am one of thousands stationed in every part of the United States to steal the secrets of your national defense. There are spies stationed in all of the Navy yards in Brooklyn, Philadelphia, Newport News. There are Nazi agents in the aeroplane and munition factories at Bristol, Buffalo, Seattle, Boston. The chief United States inspector in one of your factories turning out secret aeroplane parts is a German spy. A trial in the United States federal court first brought to the attention of a startled nation this amazing danger to its safety and freedom. Now, from the actual revelations of Department of Justice investigator Leon G. Turow, comes the mightiest dramatic blast ever filmed. The almost incredible story of foreign agents stealing our vital defense plans, of a brown network spreading hatred and terrorism to mask the treacherous plots of its leaders. Confessions of a Nazi spy.
Ce film suscite beaucoup de critiques de la part des sénateurs isolationnistes et des membres du Congrès qui ne veulent pas que les États-Unis se retrouvent mêlés à un conflit à l'étranger. Plusieurs enquêtes sont ouvertes sur certains de ces films qui véhiculent un message interventionniste à la demande de dirigeants politiques farouchement opposés à l'intervention. Pendant l'été 1941, Le sénateur Gerald Nye organise des auditions au Congrès sur les aveux d'un espion nazi et de dictateur. Il s'inquiète du fait que l'industrie cinématographique pousse les États-Unis à s'engager dans la Seconde Guerre mondiale.
Quand l'Europe entre en guerre en septembre 1939, plus de 90% des Américains disent vouloir rester en dehors du conflit. La tendance se confirme, même quand la France tombe en mai 1940 et que les nazis se tournent vers l'Europe de l'Ouest. Les Américains répètent sans cesse qu'ils ne veulent pas s'engager dans la guerre. Le président Franklin Roosevelt pense que l'implication des États-Unis est inévitable. Il commence donc à préparer le pays ou à essayer de le pousser à se préparer à la guerre et à soutenir les Alliés. La Grande-Bretagne et la France, puis après juin 1941, l'Union soviétique. C'est un combat de longue haleine. Il dépense beaucoup de capital politique pour faire passer une conscription en temps de paix, pour enrôler des jeunes hommes dans l'armée. Ce projet de loi n'est adopté qu'à une voix près. Si les États-Unis disposent d'une importante armée permanente à Pearl Harbor, c'est uniquement grâce à un vote du Congrès. Certains groupes comme l'America First Committee, le comité Amérique d'abord, sont résolument isolationnistes et à la marge antisémites. En septembre 1941, Charles Lindbergh, le célèbre pilote, prononce un discours à des moines dans l'Iowa intitulé « Qui sont les fauteurs de guerre ?» Et dans ce discours, il dit qu'il y a trois groupes qui entraînent les États-Unis dans la guerre. La Grande-Bretagne, l'administration Roosevelt et les Juifs. Et il répète tous ces stéréotypes antisémites sur les Juifs qui contrôlent les médias, qui contrôlent les banques. Il met en garde contre ce qui arrivera à la communauté juive américaine si les États-Unis entrent en guerre et si cette guerre est perçue comme une guerre pour les Juifs. La propagande américaine n'insiste pas vraiment sur ce que l'Allemagne nazie fait aux Juifs d'Europe.
Mai 1940, dans le journal d'Henry Morgenthau. Le président m'a dit au déjeuner aujourd'hui, « Si je dois mourir demain, je veux que vous sachiez ceci. Je suis convaincu que Lindbergh est un nazi. » 17h. Notre ambassadeur en France me dit qu'entre 3 et 5 millions de civils sont sur les routes vers Paris, qu'on y mitraille volontairement des enfants de 5 à 10 ans, qu'il n'y a plus de nourriture. Parler au président au téléphone. Lui ai raconté les millions de gens sur les routes en France. Il a dit que les Français ne savent plus s'ils sont derrière les lignes allemandes ou l'inverse. Il ne demande pas au Congrès de se prononcer. Il a ordonné un envoi immédiat de 25 millions de francs vers la France et qu'un bateau de vivres prenne le large dans 5 jours. 9 juin 1940. J'ai informé le président de notre production d'explosifs. Il en était ravi. Puis le président me dit qu'il a de très mauvaises nouvelles. Les Allemands sont à Compiègne, soit 90 km de Paris. David Woolner.
Et la France s'est effondrée en 6 semaines. Le monde était sous le choc. Aux États-Unis, l'inquiétude était très vive. Les chefs d'état-major de Roosevelt, comme George Marshall, étaient terrifiés à l'idée que la Grande-Bretagne soit la prochaine victime. La plupart des Américains ne le savent pas, mais ils ont envoyé des troupes dans l'est du Brésil, parce qu'ils craignaient que les nazis ne prennent le contrôle non seulement de la France, mais aussi des colonies françaises, et qu'ils lancent une attaque contre l'Amérique du Sud depuis l'Afrique de l'Ouest et des villes comme Dakar. C'est un moment de panique. Et les chefs d'état-major, à leur manière, soutenaient ce qu'on appelait le mouvement pour l'Amérique d'abord. Après le déclenchement de la guerre, l'isolationnisme des années 1930 s'est transformé en un mouvement appelé America First, l'Amérique d'abord. C'était un mouvement très anti-européen, opposé à l'entrée en guerre des États-Unis, mais favorable à l'accumulation d'armes.
Ils voulaient créer Fortress America, cette idée selon laquelle les États-Unis pouvaient se tenir à l'écart, protégés par l'Atlantique et le Pacifique.
Dans une certaine mesure, je pense que nous avons eu de la chance que l'adversaire de Roosevelt aux élections de 1940 soit le candidat républicain Wendell Willkie. Wendell Willkie n'était pas un isolationniste. Il a obtenu l'investiture républicaine, mais il partageait les mêmes opinions que Roosevelt sur bien des sujets. Si en 1940, le candidat républicain avait été un isolationniste convaincu, fermement opposé à la politique étrangère de Roosevelt, beaucoup d'Américains auraient pu voter pour lui. Et nous vivrions donc dans un monde très différent.
Le 17 décembre 1940, dans le journal d'Henry Morgan Saw. Déjeuner avec le président. Il m'a demandé si les Anglais ont demandé un prêt. Il m'a dit « J'ai beaucoup pensé à tout ça. Je ne veux pas que nous parlions en dollars ou en prêt d'argent. La seule chose à faire, c'est de produire ce dont nous avons besoin. Nous allons augmenter la productivité et dire aux Anglais « Nous allons vous envoyer les armes et les bateaux dont vous avez besoin. Et quand la guerre sera finie, vous nous les rendrez. » Et vous nous paierez simplement les réparations. Qu'en pensez-vous ? J'ai dit au président que c'était la meilleure solution. Et que si je n'écoutais que mon cœur, il faudrait leur donner, tout simplement. Mais qu'évidemment, un simple don ne passerait jamais devant le Congrès.
En conséquence, les Britanniques se sont battus seuls pendant toute l'année 1940. Et fin 1940, ils étaient ruinés. C'est très intéressant de faire le rapprochement avec la visite du président Zelensky à Washington le 10 décembre 2023, qui coïncide presque exactement avec une lettre que Roosevelt a reçue en décembre
1940.
Cette lettre émanait de Churchill et disait en substance: nous ne pouvons pas continuer la guerre. Nous n'avons plus d'argent. Nous ne pouvons plus nous permettre d'acheter des armes aux États-Unis. Nous perdons énormément de navires dans l'Atlantique. Et si vous ne nous apportez pas votre aide, nous serons en danger de mort. La réponse de Roosevelt a été brillante. C'est une formidable illustration de ses talents politiques. Vous savez, Roosevelt a donné 2 conférences de presse par semaine pendant 12 ans, soit 950 à 980 au total. C'est incroyable. Mais au milieu du mois de décembre 1940, après avoir reçu cette lettre de Churchill, il est allé à la radio et il a dit « Imaginez qu'il y a le feu chez votre voisin. » Et souvenez-vous que les Américains voient les bombardements sur Londres, ils voient les bombes incendiaires, ils voient les pompiers britanniques lutter pour éteindre ces feux la nuit avec de grandes lances à incendie. Donc il a dit « Imaginez qu'il y a le feu chez votre voisin et qu'il vient vous emprunter votre lance à incendie. Vous n'allez pas dire « Vous avez de quoi me la payer ?» Non, vous allez lui donner la lance. Et en faisant le parallèle avec la Première Guerre mondiale, il a ajouté « Si vous y réfléchissez, la défense britannique est notre défense. Et puisque nous accumulons de toute façon des armes avec le soutien des interventionnistes comme des isolationnistes, ne pourrait-on pas leur en céder une partie ? Parce qu'ils nous défendent.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Walter Compton speaking from the Oval Room of the White House in Washington, D.C., where distinguished guests, news photographers, newsreel representatives, and radio people are assembled to witness and to record a most important address by the President of the United States.
Manufacturers of watches, of farm implements, of linotypes and cash registers, and automobiles and sewing machines,
producteurs de montres, d'outils agricoles ou d'imprimeries, de caisses enregistreuses, d'automobiles, de machines à coudre, de tondeuses et de locomotives fabriquent déjà des missiles, des caisses pour transporter les bombes, des montures de télescopes, des obus, des pistolets et des tanks. Mais ce n'est pas assez. Nous devons avoir plus de bateaux, plus d'armes, plus d'avions, plus de tout.
More of everything. So I appeal to the owners of plants, to the managers, to the workers, to our own government employees,
J'en appelle aux industriels, aux managers, aux ouvriers pour que ces munitions soient produites rapidement et sans mesurer les efforts. Nous devons être l'arsenal de la démocratie. C'est aussi urgent que la guerre elle-même.
Quelle phrase ! L'arsenal de la démocratie.
C'est ainsi qu'il a commencé à formuler le nouveau rôle qu'il voyait pour les États-Unis à l'avenir. Il a prononcé son discours sur l'état de l'Union le 6 janvier 1941. Dans ce discours, il doit se présenter devant le Congrès et dire au peuple américain qu'il va mettre en place un programme appelé Pre-Buy. Nous allons devoir le financer. Nous allons faire appel aux contribuables américains. Et le Congrès américain va devoir mobiliser l'argent nécessaire. C'était un discours sur l'état de l'Union typique. Mais à la fin, il a posé une question rhétorique. Pourquoi devons-nous le faire? Pourquoi devons-nous nous sacrifier? Et c'est là qu'il a fait une annonce qui est peut-être la plus célèbre de cette période de guerre. Il a dit, dans les jours à venir, que nous cherchons à rendre plus sûr, nous espérons un monde fondé sur quatre libertés humaines fondamentales. Et il a poursuivi, la première est la liberté de parole et d'expression partout dans le monde. La deuxième est la liberté pour chacun d'adorer Dieu comme il l'entend partout dans le monde. La troisième est d'être libéré du besoin, du dénuement. Et enfin, la quatrième est d'être libéré de la peur, de façon à ce qu'aucune nation ne se trouve en mesure de commettre un acte d'agression contre un voisin, n'importe où dans le monde. Réfléchissez un peu à cela. Le peuple américain sait ce qu'est la liberté d'expression. Il sait ce qu'est la liberté de religion. Elles sont inscrites dans la Constitution. Mais l'idée que la politique étrangère américaine soit fondée sur la liberté de vivre à l'abri du besoin et de la peur, c'est une extension considérable de la politique étrangère américaine à l'échelle mondiale.
17 mai 1941. Quand j'ai vu le président à 6 heures ce soir, il m'a dit « J'attends qu'on n'ait plus le choix ». Et j'ai compris qu'il espérait qu'on soit poussé vers la guerre, plutôt qu'il soit contraint de nous y entraîner.
Nous sommes attaqués le 7 décembre.
Winston Churchill invites himself to the White House and shows up.
Winston Churchill s'invite à la Maison Blanche et se présente en grande pompe à Washington à la fin du mois de décembre 1941. Et ils ont cette idée de convoquer tous les ambassadeurs qui le souhaitent à Washington, à la Maison Blanche, et de leur faire signer un papier par lequel ils s'engagent à ne pas conclure de traité de paix séparé avec l'Axe et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir la lutte contre le fascisme. Il ne s'agit pas de leur demander de déclarer la guerre, mais de rejoindre notre camp, si l'on peut dire. Et ils ont besoin d'un nom pour cela. Au milieu de la nuit, c'est une anecdote très connue, alors que Winston Churchill prenait son bain, Roosevelt a trouvé un nom. Il s'est rendu en chaise roulante dans la salle de bain où Churchill dictait un discours à l'un de ses secrétaires. Il était sorti de la baignoire. Son assistant lui avait donné une serviette, mais il était tellement agité en dictant son discours que la serviette était tombée. Churchill se tenait donc debout, complètement nu. Roosevelt est arrivé à ce moment-là et a dit « Je suis désolé, Winston ». Et il a commencé à ressortir de la pièce. N'oubliez pas qu'il était en chaise roulante. Et Churchill a eu cette phrase célèbre. « Ce n'est pas grave, Monsieur le Président. Comme vous pouvez le constater, le chef du gouvernement de Sa Majesté n'a rien à cacher au président des États-Unis. » Quoi qu'il en soit, il est donc venu dans la salle de bain pour lui dire qu'il voulait leur faire signer ce qu'il avait choisi d'appeler une Déclaration des Nations Unies. Et bien sûr, Charles de Gaulle a voulu signer cette déclaration. Roosevelt a refusé. Il a dit « Vous n'êtes pas un chef d'État. Vous ne représentez pas une entité gouvernementale. » C'est l'un des nombreux exemples de l'antipathie entre De Gaulle et Roosevelt. En tout cas, c'est devenu le nom de l'Alliance pour la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, beaucoup d'Américains ne savent pas que le véritable nom de l'Alliance était les Nations Unies. Et à la fin, Roosevelt a décidé qu'elle s'appellerait simplement l'Organisation des Nations Unies, abrégée en Nations Unies. Il était donc très attaché à l'idée de sensibiliser le peuple américain à ses responsabilités internationales.
Décembre 1941. Le président au téléphone. Hello, Henry. Réunion du cabinet à 20h30. Je lui ai dit, nous gelons tous les avoirs japonais ? Oui. Nous ne laissons aucun japonais quitter le territoire ou entrer en communication avec le Japon, ajoute Henry Morgenstau. Ce sera beaucoup plus. Les japonais sont sortis brutalement de leur maison, de leurs vies américaines, et parqués dans des camps de détention. Geoffrey Ward.
Mais on a commencé à recenser et dans certains cas à enfermer les immigrés allemands, les immigrés italiens, les immigrés japonais et même à notre grand déshonneur, les citoyens nippo-américains. Ils ont été internés.
The initial feeling was that aliens were scary.
Et il y avait cette idée qu'il fallait se méfier des étrangers. Les journaux actuels disent la même chose. Nous sommes en guerre et ils vont nous saboter. Pour remettre les choses dans leur contexte, il régnait alors un sentiment de terreur effroyable ici. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont effectivement livrés à des sabotages aux États-Unis. Ils ont essayé de détruire la Statue de la Liberté. En tout cas, elle a été endommagée par une gigantesque explosion provoquée par des agents allemands. Avec le recul, toute cette paranoïa semble absurde et certainement xénophobe.
Rebecca Herbelding. Les affiches de propagande après Pearl Harbor, une fois que les États-Unis sont entrés en guerre, parlent des nazis comme d'une menace pour la démocratie, pour les enfants américains blancs, pour la patrie. Ils ne parlent pas de menace pour les juifs. Les États-Unis ne partent pas en guerre pour sauver les juifs. Cela s'explique en partie par le fait que le gouvernement estime que les Américains ne se battront pas avec acharnement s'ils pensent qu'on leur demande de se battre pour les juifs. L'administration Roosevelt n'est pas uniforme. Certaines personnes comprennent plutôt que d'autres que l'Allemagne nazie arrête des gens et les assassine. Les États-Unis ont des diplomates à Vichy jusqu'en novembre 1942 qui assistent donc au début des déportations depuis Gurs, Rivesaltes, Drancy, puis à l'Est. Ils envoient des télégrammes aux États-Unis pour dire des gens disparaissent. Ils n'emmènent pas ceux qui sont aptes à travailler. Ils emmènent des personnes âgées, des enfants. Il n'y a aucune explication à cela. Pour eux, je pense que la nouvelle de la solution finale n'est pas une surprise. Le département d'État confirme l'information à la fin du mois de novembre 1942. Les journaux du 25 novembre 1942 annoncent que les nazis ont un plan, qu'ils prévoient d'arrêter, de déporter et de tuer tous les juifs d'Europe, et qu'ils ont déjà assassiné 2 millions d'individus. Les journaux s'emparent du sujet fin novembre 1942. À partir de ce moment-là, cette information est généralement considérée comme crédible et valable par la presse. Dès lors, les journaux la traitent comme un fait et non comme une opinion. Cela ne signifie pas que les Américains y croient. En janvier 1943, les sondages sont serrés, mais environ 48% des Américains souscrivent à l'idée que les nazis ont assassiné 2 millions de personnes. Cela veut dire qu'une majorité d'Américains pensent encore que ce n'est pas vrai.
Roosevelt faisait imprimer toutes sortes de cartes dans les journaux. Et il a fait produire des cartes qui montraient à quel point le continent eurasien était proche à vol d'oiseau des États-Unis, à quel point nous étions vulnérables. Quand ils regardent une carte, la plupart des Américains voient l'équateur, les États-Unis, avec l'Atlantique d'un côté et le Pacifique de l'autre. Roosevelt a fait produire des cartes à partir d'une projection polaire. Et quand on regarde les États-Unis depuis le pôle Nord, on constate qu'ils sont très proches du continent eurasien. C'est d'ailleurs devenu le symbole des Nations Unies. Si vous regardez le logo de l'ONU, vous verrez qu'il s'agit d'une carte à projection polaire. Il dit au peuple américain d'aller acheter des cartes. Et les cartes du monde de National Geographic ont enregistré leur plus forte vente de l'histoire. Et après, il passait à la radio. Il disait « Sortez vos cartes ».
Cette guerre est d'un genre nouveau. Différente de celle du passé, non seulement par ses méthodes et par les armes qu'elle utilise, mais aussi par sa géographie. C'est une lutte pour chaque continent, pour chaque île, chaque mer, chaque canal aérien dans le monde. C'est pourquoi je vous ai invité à déplier devant vous une carte planétaire afin de suivre avec moi les lignes de front dont je vous ai parlé.
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts, you are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your heart. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man nor a group of men, but in all men. In you, you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world. That will give men a chance to work, that will give youth a future, and old age a security.
C'était le quatrième épisode de la Grande Traversée, Franklin Roosevelt, l'allié. Avec Geoffrey Ward, David Woolner, Anne Roosevelt, Michael Kazin, Rebecca Herbelding, Catherine Bronwell. Et les voix de Clara Chabalier, Lise Combe, Laurent Lederer, Joachim Salinger, Evelyne Guimara, Madeleine Bonio-Carlin, Mavine Ouattara, François Loriquet. Prise de son, Benjamin Thuo, Valentin Azan-Wielenski. Traduction, Céleste Carlin, Marine Elgon. Recherche, Ina Sabine Dahuron. Mixage, Valentin Azan-Wielenski. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon.